Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. À l'occasion du Jour de la Terre, la plateforme France.tv de France Télévisions diffuse trois séries documentaires inédites, carbonisées, au bord de la crise de verre et pure, que dit la nature ? Les séries documentaires carbonisées et au bord de la crise de verre répondent à la thématique du tourment climatique. Quant à la série pure Que dit la nature, c'est une création originale dont l'enjeu est une approche documentaire différente de la nature, dédiée à la stimulation de l'imaginaire et à une écoute nouvelle, intense, de l'environnement et des animaux. Une expérience sensorielle exceptionnelle. Pour en parler, j'accueille dans ce podcast en deux épisodes la journaliste Laure Noala pour la série Carbonisée et l'audio-naturaliste Fernand de Roussen pour nous parler de la série Pure et de son travail d'immersion totale dans les bruits de la nature qu'il nous transmet à merveille. Dans la première partie de ce podcast, j'accueille Laure Noala pour nous parler de Carbonisée, la série de 10 petits documentaires de 13 minutes qu'elle a réalisé pour la plateforme numérique de France TV. Laure Noala est journaliste, elle a travaillé entre autres pendant une quinzaine d'années pour le journal Libération. Elle est auteure, son dernier livre s'intitule « Comment rester écolo sans finir dépressif ». Ça nous donne une idée du ton. Elle est aussi réalisatrice de plusieurs documentaires sur les déchets nucléaires, les climato-sceptiques. Elle a co-réalisé le film « Après-demain » avec Cyril Dion. Beaucoup la connaissent pour son personnage de Bridget Kyoto, des petites pastilles vidéo sur YouTube sur un ton drôle et décapant pour alerter sur les risques environnementaux depuis 2010. Et toutes ces activités ont en commun une forte préoccupation, donc, pour l'environnement. Bonjour Laure Noala, bienvenue sur So Sweet Planet.
Bonjour Anne.
Alors, vous avez réalisé donc cette série carbonisée, mise en ligne le 22 avril 2021, Jour de la Terre, donc sur la plateforme de France Télévisions. Et j'avais envie d'en parler d'une part parce que cette initiative de France Télévisions mérite, je trouve, d'être relayée, mais aussi parce que j'ai beaucoup aimé les 10 épisodes de Carbonisée. J'ai regardé les 10 d'affilée, j'étais vraiment accrochée et surtout, j'ai trouvé votre réalisation très délicate et fine, autant dans vos choix de personnes que de plans. Il y a de très beaux plans, la nuit, de montage aussi. Donc, cette histoire se déroule à Joigny, dans l'Yonne, où vous habitez, je crois. Qu'est-ce qui vous a donné envie de répondre à cet appel d'offres et de cette façon-là? Comment vous l'avez construit, ce projet? Qu'est-ce qui vous a entraîné là-dedans?
Ah, en fait, l'appel d'offres de France Télévisions est sorti en... je crois en mai 2019, en avril-mai 2019, il fallait répondre, voilà. Et moi, j'étais en pleine éco-dépression. Enfin, j'étais dans mon énième cycle de tambour, de machine à laver, en plein essorage, parce que rien ne change vraiment, les choses empirent. Et donc, du coup, j'étais dans ma ville, dans mon jardin à Joigny, et puis un producteur m'appelle, donc Point du Jour m'appelle, et je sais pas ce qui s'est passé, ça m'a foutu la patate de parler d'éco-dépression. Alors l'appel d'offres, il s'intéressait au tourment climatique. J'étais en plein dedans, quoi, le tourment climatique. Je me rappelle les termes, c'était mais qu'est-ce qu'on fait quand on a 14 ans? Est-ce qu'on a envie de devenir Greta Thunberg? Est-ce qu'on prend encore l'avion pour partir en vacances? Est-ce qu'on mange encore de la viande? Est-ce qu'on voudra des enfants plus tard? Est-ce que, enfin, voilà, c'est toutes les questions, les torsions qu'on peut se faire au cerveau, les nœuds qu'on peut se faire au cerveau. Et voilà, et ça me parlait complètement puisque ça faisait une dizaine d'années que j'étais là-dedans. J'étais à l'époque au début de l'écriture de mon livre « Comment rester écolo sans finir dépressif ». Et voilà, et on a eu… et donc, moi, ce qui m'a intéressée, si vous voulez… bon, je suis une journaliste environnementale, donc c'est normal, je me confronte un petit peu aux mauvaises nouvelles toute la journée. C'est même, je suis payée pour ça. Mais en réalité, l'écologie, elle arrive bien dans le cerveau de tout le monde. C'est ce qu'on voit depuis quelques années. Les sujets intéressent de plus en plus, inquiètent de plus en plus. Et puis, bon, on voit bien qu'il y a un décalage entre ce qu'il faudrait faire d'un point de vue politique, même d'un point de vue individuel, et puis ce qu'on fait. Et en fait, c'était dans cette ville de 10 000 habitants, qui est une belle endormie, une ville de province, comme n'importe quelle ville de 10 000 habitants, donc vraiment pas une grande agglomération. Comment est-ce que l'écologie arrive dans le cerveau et dans la vie des gens? Est-ce qu'eux aussi ils ont des nœuds au cerveau? Est-ce qu'ils sont en train de se demander quelle est la bonne poubelle de tri, ou est-ce que ça va un peu plus loin? Et donc voilà, ça m'intéressait et très très vite je me suis rendu compte que des gens qui m'entouraient ou des gens qui ne m'entouraient pas, qui étaient un peu plus loin de mon cercle de connaissances, on va dire, étaient concernés en fait par ces questions-là de diverses manières et à tous les âges.
Et alors pourquoi ce titre en fait, carbonisé?
Alors parce qu'on est un peu punk déjà. Et puis parce que carboniser, ben en fait, si vous voulez, c'est un peu l'idée qu'il y a cette surchauffe climatique, ces changements climatiques qui n'échauffent pas que la nature, mais qui échauffent également nos cerveaux. C'est-à-dire que quand on essaye d'avoir une vie parfaite d'un point de vue environnemental, bon ben, on voit très très vite que c'est le suicide, quoi, la seule action à mener pour avoir zéro impact sur la planète. Évidemment, je ne préconise pas le suicide, même s'il est bio, on s'arrache les cheveux, ça chauffe. Hein. Si je fais ça, je limite ma consommation d'énergie, très bien. Mais en faisant ça, j'ai recours au nucléaire, très bien. Mais alors, si j'ai recours au nucléaire, est-ce que je suis vraiment écolo? Mais c'est le nucléaire. Enfin bon, voilà. Donc, on s'arrache un peu les cheveux sur les questions environnementales parce que nous sommes maintenant dans des sociétés complexes et des systèmes complexes, des systèmes de consommation, de mondialisation, qui font que de toute façon, nous avons des impacts. Nous voudrions en avoir des moindres et des inférieurs puisque pour rester en dessous de la barre des plus 2 degrés d'ici à 2030, 2050, il faut vraiment réduire des deux tiers nos émissions de CO2. Et Anne, je ne sais pas si vous y arrivez, si vous faites votre petit bilan carbone personnel, mais c'est très, 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 très dur, quoi. Et voilà, donc on s'arrache un peu les cheveux. Donc on est un peu cramé du cerveau, du neurone, et on est donc carbonisé, tout comme cette planète dont l'atmosphère va bientôt être ultra carbonisée.
C'est ça. Et d'ailleurs, il y a une petite séquence qui l'illustre bien avec Massimo. Au début, là, avec son petit pot en terre, je crois, qu'il a commandé sur Internet, qui est arrivé cassé. Et alors, est-ce qu'il met de la colle ou pas de la colle? La colle, c'est pas bon pour l'environnement. Mais en même temps, c'est quelque chose qu'il a acheté neuf, donc il n'a pas envie de le jeter comme ça. Et peut-être qu'il pourrait emprunter de la colle.
Voilà. Bah, Massimo c'est devenu un ami. Hein. Il est. J'adore Massimo parce que Massimo, voilà, il a changé de vie. Il avait une vie confortable. Il a commencé à développer une névrose obsessionnelle pour le déchet. Des analyses de cycle de vie, il en voit à peu près pour n'importe quel objet. Et son combat, donc il a vraiment changé de vie. Il est, je crois, conseiller en optimisation fiscale dans le passé. Et maintenant, il est il travaille au syndicat des déchets du centre Yonne. Donc, sa mission, tous les jours, son travail, c'est de déposer des composteurs collectifs, de former des restaurateurs à moins de gaspillage alimentaire, à même des pratiques de zéro déchet, à essayer d'éviter à tout prix qu'un jour le projet d'un incinérateur naisse dans le centre Yonne, donc on puisse vraiment, vraiment séparer à la source les déchets, en réutiliser un maximum. Voilà, donc c'est quelqu'un qui s'est aligné, mais qui traverse régulièrement des petits affres écologiques, quoi.
Oui, puis en fait, on voit bien aussi avec la série que plus on commence à mettre en place des nouvelles façons de vivre dans sa vie quotidienne, et plus on peut se retrouver en rupture avec notre environnement, y compris le plus proche, quoi, qui ne suit pas forcément. Alors, cette galerie de personnages-là, que moi, j'ai trouvé très, touchante. D'ailleurs, vous avez une façon de les filmer qui est vraiment... on sent qu'il y a, il y a beaucoup d'écoute, de tendresse. Et comme je disais au début, j'ai trouvé ça très délicat, votre approche. Et il y a de l'humour aussi, on va en reparler un peu plus tard. Et c'est ce qui m'a plu aussi. Donc, en fait, vous avez suivi combien de personnes en tout et pendant combien de temps?
Alors, j'ai suivi les Tiny. Donc, c'est un couple, ce qu'on les appelle les Tiny, Coraline et Jocelyn. Un couple avec 3 enfants en bas âge. Il y a Pascal. Donc, ils vivent dans une tiny house. Ils ont décidé de, pareil, de faire un virage à 180 degrés et donc de vivre à 5 dans 17 mètres carrés. Enfin, vous verrez, il y a des péripéties. Il y a Massimo, on en a parlé. Pascal, qui est une néo-jovinienne de une 60aine d'années, graphiste, et très, très adepte de la méditation. Il y a Éric Lenoir, qui est paysagiste dans le coin, qui est auteur du traité, du petit traité du jardin punk, qui est assez connu dans son domaine et qui, lui, est un homme à la fois très triste et très en colère et qui ne sait pas toujours quoi faire de cette colère jusqu'au moment où il décide de faire quelque chose d'assez radical, on va dire. Et puis, il y a évidemment Ludivine et Sullivan, donc pareil, des transitionneurs entre guillemets, c'est-à-dire des jeunes très diplômés qui ont quand même un engagement politique très, 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 très fort et qui, par ailleurs, ont envie de s'engager, de mobiliser beaucoup, beaucoup d'élus sur la question des risques majeurs, puisque c'est une question qui est assez oubliée, en fait, en France. Voilà. Et puis, on a Alain Vigneault, le viticulteur, qui, lui, est plutôt climato-sceptique. Il est dans un énorme déni. Il fait pousser son vin. Il nous explique qu'il y a 800 ans, de toute façon, comme il y avait du blé au Groenland, faut pas s'inquiéter. Nous saurons nous adapter. Il n'y a pas trop de problèmes. Il utilise du glyphosate. Enfin, voilà. Il se pose pas trop de questions. Il fait son vin, il vend son vin. Et d'une année sur l'autre, de toute façon, les conditions climatiques changent. Donc, pour lui, l'adaptation, je dirais que c'est quelque chose de très au jour le jour. Il a du mal à voir l'adaptation des sociétés humaines, si vous voulez, quand tout se déréglera au niveau mondial. Donc voilà.
Peut-être qu'il pourrait lire l'Atlas de l'Anthropocène de François Gemelle.
Exactement, Gemelle. Il pourrait. Voilà, mais non, en fait, je crois qu'il est assez hermétique, assez sûr de lui et il est très représentatif.
Oui, on sent qu'il ne veut pas remettre en question.
Il est très représentatif de certaines personnes qui pensent que l'écologie, c'est vraiment un truc de bobo qui n'intéresse que des néo-ruraux ou des bacs plus 5. Voilà, et puis on a également les collégiennes, hein, Jade et Mathilde, avec leur énergie de leurs 14 ans à l'époque, maintenant qui ont bien grandi, elles ont 16 ans, mais elles ont quand même changé. Elles essayent de se mobiliser un peu à la Greta Thunberg, d'organiser des marches climat ou des choses comme ça, voilà, donc elles sont...
Oui, elles sont vraiment super et j'ai trouvé ça assez réjouissant de les voir, puisque bon, on le sait, là maintenant, il y a eu beaucoup de reportages sur toute la jeune génération qui s'engage, qui pour les marches pour le climat, derrière Greta Thunberg et tout ça, mais de les suivre au quotidien, aller parler à la principale de leur école pour essayer de mobiliser un peu dans le collège, tout ça, c'est assez joyeux à regarder, je trouve. Et donc, du coup, aujourd'hui, elles continuent.
Alors, ce que j'adore, c'est qu'aujourd'hui, je peux pas trop vous dire, parce que les filles, elles évoluent beaucoup dans la série. Je veux pas spoiler, mais elles grandissent, quoi, si vous voulez. Elles grandissent et elles prennent conscience de certaines choses. Et puis bon, elles ont quand même la légèreté de leurs 16 ans, quand même. Là, ce qui est important, c'est les fringues et les garçons et voilà. Donc, mais tout en étant assez virulente sur certains aspects. Par exemple, Mathilde qui est végétarienne, par exemple, donc elle mange de la viande que quand ses parents la forcent à manger le beefsteak. Mais en réalité, elle s'est déjà fait un choix très drastique pour certains, mais très aligné là encore, très cohérent.
Et du coup, comment vous les avez choisis? Est-ce que vous aviez une idée d'un tableau d'ensemble avec des caractères types, des engagements?
Oui, il fallait.
Il y a le maire aussi.
Je sais pas, je trouvais une ville de 10 000 habitants. C'est très compliqué d'avoir un échantillonnage super représentatif. Et d'ailleurs, il y a quelques angles morts, hein. D'avoir des jeunes, moi, ça me semblait important, mais jeunes, quoi, des collégiens. À Joigny, il y a moins de jeunes parce que c'est pas vraiment une ville étudiante, donc il n'y a pas trop de vingtenaires. Ceux qui font des études s'en vont et ceux qui restent sont pas trop concernés par l'écologie. Je trouvais c'est important d'avoir quelqu'un qui travaille avec la terre, donc qui travaille pendant les 4 saisons dehors. On a l'idée de, comment dire, de quelqu'un qui avait changé sa vie. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir des gens qui avaient changé leur vie, mis leur, comment dire, ce qui les intéressait, et en pratique, et en cohérence, pour réduire ce niveau de dissonance, vous savez, qui crée beaucoup de désarroi psychologique. Une famille, c'était évident, et j'aurais bien aimé quand même avoir des personnes un peu plus éloignées des questions écologiques, même si par exemple la famille de Jocelyn et Coraline, très éloignée, je veux dire, c'était des fans, et ce sont encore des fans de rallye automobile, ils ont opéré une bifurcation, mais pour eux c'était pas écolo, pour eux c'était faut qu'on consomme moins, ça va être la crise, réduisons nos besoins. Mais ils se sont jamais dit réduisons nos besoins parce que tout va s'effondrer, voilà. Et en fait, ils ont opéré une très belle bifurcation. Ils se sont rendus compte que ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est que leurs amis proches des trucs de rallye ne comprenaient pas trop leur bifurcation, donc les ont un peu laissés tomber. Et maintenant, ils se sont trouvés une nouvelle communauté d'amis très intéressés, très curieux de leurs exploits, parce que ils réalisent quand même qu'ils trouvent quelques exploits à vivre dans cette tiny house, à faire pousser leurs légumes et à atteindre une forme d'autonomie presque complète, à installer des panneaux solaires, à réduire leurs besoins. Enfin, c'est vraiment, ils sont assez, en un an, ils ont beaucoup progressé. Voilà. Donc, ils ont une nouvelle communauté, ils ont changé de vie, ils ont des nouveaux amis. Enfin, et tous ces gens-là, finalement, ont fini par se croiser, se rencontrer et s'apprécier. Et maintenant, tous ces personnages font des choses ensemble. Donc, c'est ça qui est extraordinaire.
Oui, parce qu'au début, dans les premiers épisodes, effectivement, on les voit séparément les uns des autres. Vous nous présentez, on suit un petit peu les deux jeunes filles, Massimo, Ludivine et Sullivan. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, en fait, les croisements commencent à s'opérer. On voit des contacts qui se nouent et des actions aussi qui se mettent en place. Je me demandais, en suivant un groupe de personnes comme ça dans le temps, en fait, on ne sait pas toujours où ça peut mener. Est-ce que vous avez eu des surprises pendant le tournage?
Oui, des grosses surprises. Enfin, comment dire, une petite catastrophe, un petit effondrement au moment d'un incendie, enfin qui met à mal quand même pas mal de choses. En termes de surprise, c'est vrai que moi je les regardais. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir noté qu'on les regardait avec tendresse finalement, parce que ce sont des gens que j'ai appris à aimer, qui sont pour certains devenus des amis et j'ai l'impression qu'ils font partie d'une famille, non pas d'éco-anxieux pour le coup, mais d'éco-agissants qui se retroussent les manches, savent très bien que ça va très mal se passer, mais qui font quand même. Et donc du coup c'est voilà, c'est assez touchant. On est très loin des clichés ou des grosses manifs d'étudiants parisiens. On est dans une ville de province, je le redis, qui a ses caractéristiques. Vous savez, c'est une ville où, 26% des personnes qui y vivent ont plus de 60 ans, 25% supplémentaires ont pas forcément de niveau d'études ou sont au chômage. Donc, on est quand même dans une ville très disparate. Et notre rêve, notre ambition, c'est quand même d'essayer d'amener l'écologie dans les quartiers populaires et ou défavorisés. On va essayer de s'y employer, de créer des associations. Enfin, on est déjà à la suite de tout ça ou pendant tout ça, on a décidé d'agir au-delà de nos périmètres individuels, quoi. Donc c'est très très touchant et très enthousiasmant.
Ça a créé, ça a mis en réseau en fait toutes ces personnes qui certaines se connaissaient peut-être déjà, d'autres pas. Enfin, même vous ne les connaissiez. En fait, je me suis demandé justement, quand j'ai vu que vous habitiez Joigny, je me suis dit, est-ce qu'elles les connaissaient tous avant ou est-ce qu'il y avait une part d'aventure de suivre des gens justement.
J'en connaissais certains, peut-être que vous ne connaissiez pas du tout. Qui m'avaient même dit non d'ailleurs, oui, pour être filmés, qui finalement sont allés dans l'aventure. Donc je trouve ça, je les remercie. Je pense à Pascal qui n'était pas très partante au début et puis finalement qui amène quelque chose de très très important, je trouve. C'est une espèce de distance et de hauteur, de légèreté pour retrouver un peu de la joie en fait dans tout ce qu'on fait. Et en réalité, il y en a certains que je ne connaissais pas et ben on se lâche pas quoi. Enfin, maintenant, alors comment
Vous avez commencé à tourner quand?
Alors on a commencé à tourner en septembre 2019.
C'est ça. Donc en fait, dans les surprises, il y a eu le Covid.
Ah bah oui, quand même. Bien sûr, je suis bête, j'ai oublié de vous dire, mais évidemment. Mais évidemment, la grosse surprise de 2020, c'est le confinement. Et
qui est arrivé en plein milieu, parce que le maire, enfin le futur maire, il en parle.
Il en parle et il en est saisi dès le début de sa mandature. Lui, il est élu au premier tour, d'ailleurs, en mars 2020. Mais il faut attendre que le conseil municipal se réunisse fin juin pour qu'il soit véritablement élu. Donc, il a été maire sans être maire et jeté dans le bain comme ça de l'urgence, de mesures assez radicales à prendre pour organiser le marché, pour organiser des livraisons de paniers de la Croix-Rouge, pour aider des gens qui... voilà. Et c'est un maire en plus très très proche de sa population. Je crois que la moitié de Joigny doit avoir son 06. Donc il est tout le temps à répondre, tout le temps sollicité. Il a une page Facebook, il est très suivi. Et c'est effectivement un personnage assez clé hein, dans cette ville. Il a été longtemps premier adjoint. Donc c'est pas... voilà, c'est quelqu'un qui connaît bien ses administrés, qui adore sa ville et qui a une oreille très bienveillante vis-à-vis de tous les projets qu'on peut mener en faveur de la transition, quoi.
Oui, je ne sais plus si c'est lui. Il y a une phrase que j'ai notée justement par rapport au confinement. Il y a quelqu'un qui dit « Ceux qui ont réduit leur surface de vie ne sont pas forcément les plus confinés dans leur tête ».
Ça, c'est dans le commentaire que je dis ça.
C'est vous qui le dites.
Ouais, c'est moi qui le dis, oui. Parce que on arrive vers la tiny house à ce moment-là. Et effectivement, on dit, waouh, 5 personnes dans 17 mètres carrés, mais c'est impossible. Et en fait, le confinement a eu un effet booster pour, on les appelle les tiny, hein. Donc, Coraline et Jocelyn et leurs enfants. Bah oui, ils se retrouvent à la maison. Alors lui, le problème, c'est qu'il fait des cercueils. Donc lui, il était forcément au boulot tout le temps.
Il en parle. Parce qu'on lui dit, mais du coup, t'as pris une petite boîte, ça ne change pas beaucoup, quoi. Une petite boîte en bois.
Mais lui, il bossait beaucoup, mais des woofers sont venus s'installer sur leur terrain et les ont aidés beaucoup donc à développer leur culture, leur permaculture. Coraline est une staccanoviste du légume. Elle fait marcher tout ça. Elle a produit beaucoup. Après, derrière, c'est une staccanoviste de la légumerie, de la transformation, de la lactofermentation, de la compote, de la soupe, de la sauce.
Oui, on la voit parmi tous ces bocaux. C'est impressionnant d'ailleurs le cœur qu'elle met et la persévérance, parce que tout le monde sait, enfin tout le monde, ceux qui ont essayé savent que les premières récoltes pour quelqu'un qui n'est pas né sur le terrain sont quelquefois un peu décourageantes.
On est un petit peu submergé parfois. Et cette année, on a eu une fructification quand même assez délirante. Voilà, dans le verger qui est un peu à disposition de tout le monde, qu'on a un peu en commun, on a quand même récolté 300 kilos de pommes et 160 kilos de cerises. Donc que faire, enfin voilà, quand vous achetez un kilo de cerises, vous multipliez par 160 et essayez de vous faire des cerises en bocaux, ça vous prend des journées et deux journées. Voilà, mais tout ça dans la bonne humeur et si possible.
Mais ils vendent aussi un petit peu, non? Parce qu'à un moment, ils disent, voilà, on a récolté tant, ils parlent de vente et de ce qu'ils gardent et de ce qu'ils peuvent...
Oui, alors ils vendent un peu de... Leur vocation, c'était ça. Ils conservent et ils mangent en direct, ouais. L'idée, c'est, si vous voulez, on a beaucoup de questions actuellement autour de la question de l'autonomie alimentaire, énergétique, d'habitat aussi. Donc, ces questions d'autonomie sont au cœur de la pensée écologique et de certaines franges qui ont envie d'une transition. C'est-à-dire, on s'extrait d'une ville, on s'extrait d'un système malade, auquel d'ailleurs on contribue, et on s'extrait pour vivre mieux dans le temps imparti. Actuellement, je suis en train de faire un tour de France des écolieux, des initiatives, des gens qui bifurquent, si vous voulez, et je retrouve toujours ça, quoi. J'ai envie de sortir du système, de réapprendre à faire des choses, faire pousser mes légumes, c'est tout bête, mais on a oublié, quoi, depuis 2 ou 3 générations, alors pas partout, pas dans tous les milieux, mais pour certains milieux, pour beaucoup de jeunes diplômés d'ailleurs, beaucoup d'ingénieurs, de nanas dans la communication, etc., maintenant bifurquent et essayent de débrancher du système pour s'autonomiser. Et la question de l'autonomie, bah, vous voyez bien, en mode, quand on est confiné, qu'on est confiné en ville, avec des magasins fermés, plus d'accès à la culture, qu'est-ce qui nous reste, si ce n'est un accès à la nature, un accès au temps long, et ce temps long donne envie de déployer un peu de joie, de calme, d'apprécier en fait des choses toutes simples. Voilà, donc là, bon... c'est quand même la période des semis, il faut planter comme des malades et c'est beaucoup de coups de boost en fait de travailler avec la nature et dans la nature, mais c'est tellement réconfortant, tellement ça réencapacite comme on dit les gens, et les campagnes se meurent, la ruralité isolée se meurt, il y a beaucoup de terres à réinvestir, beaucoup de choses à réapprendre pour vivre mieux, plus lentement, plus simplement.
On voit aussi, et c'est ce que je trouve intéressant justement, vous l'évoquiez au début là de la discussion, c'est toutes ces contradictions intérieures et aussi avec l'extérieur. En fait, on voit que ceux qui commencent à changer leur façon de vivre dérangent un peu ceux qui continuent à vivre d'une façon traditionnelle, qui veulent rien changer. Mais ceux qui veulent continuer à vivre sans rien changer se retrouvent aussi un peu dérangés par ceux qui adoptent une nouvelle façon de vivre. Par exemple, la femme qui habite à côté des vignes du viticulteur, qui elle est déjà dans de nouvelles perspectives et qui est un peu effarée de constater qu'elle habite à côté de ces vignes qui sont traitées de façon traditionnelle. Massimo qui est tout heureux de l'installation d'un composteur sur une place de la ville, mais celui qui habite juste en face, en fait, lui, il se plaint des odeurs, il n'est pas du tout heureux de l'arrivée de ce composteur. Et je trouve que cet aspect laboratoire tout au long de la série est vraiment intéressant. Et à mon avis, ça devrait donner des idées justement aussi pour étudier un peu plus où sont les points de friction et où est-ce qu'on pourrait. Bon, pour ça, évidemment, il faut déjà être dans des villes où c'est à qui qu'on veut opérer une transition. Mais c'est intéressant à regarder où sont ces points pour essayer de faire des choses qui se passent de façon fluide, quoi. On peut étudier tous les points là où ça.
En fait, le point de friction, il est très clair. C'est-à-dire que moi, je pense toujours à la phrase de Montesquieu. Bah, je ne veux pas faire l'intello, mais on l'a tous en tête, cette phrase. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et en réalité, sur les questions environnementales, nous sommes tous sur la même planète, dans le même bateau qui n'a pas de frontières, mais qui a une fine couche d'atmosphère qui nous protège, qui permet la photosynthèse, qui permet la vie, l'eau, l'émergence de... Nous sommes sur une planète miraculeuse et nous sommes en train, par notre seule présence et nos activités très carbonées, de faire basculer les conditions de vie sur Terre qui deviennent instables, alors qu'elles ont été stables pendant 10 000 ans. Ces 10 000 ans, il faut voir que c'est le démarrage, on va dire. C'est quand on sort de nos grottes du néolithique, qu'on se sédentarise, qu'on crée l'agriculture jusqu'au moment où on va sur la Lune, quoi. Donc, si ces conditions de vie sont stables climatiquement parlant, ça nous permet de nous développer. Elles sont en train de changer et on ne sait pas vers quoi elles vont aller vraiment, mais on sait qu'elles vont déstabiliser grandement les sociétés humaines qui, depuis 10 000 ans, vivent avec quelque chose d'assez stable. Le point de friction, pour moi, il est quand quelqu'un ne comprend pas ça. C'est tout. Il est à peu près à ce niveau-là. Par ailleurs, ça se traduit donc dans des choses quotidiennes, mais infernales. Ce sont des questions de confort, de consommation, de confort de vie. Est-ce que j'ai besoin de 3 voitures? Est-ce que dans un immeuble avec 15 appartements, on a besoin que chacun ait une machine à laver? Est-ce qu'on peut pas faire comme dans les pays nordiques, faire des buanderies communes, mutualiser beaucoup de choses plutôt que acheter neuf, plutôt, alors qu'on pourrait partager, vous savez, qu'une voiture est immobilisée sur un parking 92% du temps. Bon, donc c'est complètement idiot, on pourrait la prêter, la partager, etc. Mais là, je vous donne des petits exemples un peu bébêtes, mais n'empêche que moi, ce que je ne comprends pas, c'est quand on me dit mon intérêt est supérieur à l'intérêt collectif, l'intérêt collectif étant celui de l'humanité sur cette planète aux conditions stables, qui sont en train de basculer, de se déstabiliser, et donc du coup d'aller vers quelque chose qui est de l'ordre de l'inconnu. Mais cet inconnu on a quand même quelques pistes, et ces pistes, c'est que les productivités agricoles vont baisser, c'est que les ressources se raréfient, c'est que l'accès à l'énergie n'est pas le même pour tous et il va être de plus en plus cher. Or nous avons des modes de consommation où on ne s'est jamais posé la question des limites. Voilà, donc le point de friction, il est quand je dis limite et qu'on me dit mais non, moi j'ai toujours fait comme ça dans ma famille, puis 5 générations, je vais pas m'emmerder à changer. C'est dommage, du coup on va tous devoir changer, on va subir le changement plutôt que de l'anticiper, de le préparer, de le choisir. Et c'est juste, tout ça c'est plein de points de friction en fait. Mais je pense que les gens ont peur de changer aussi parce que depuis le temps que j'en croise des gens qui ont peur de changer, c'est parce qu'ils méconnaissent l'ampleur des enjeux et de ce qui nous pend au nez. Et voilà, pour X raisons qui sont parfois très valables, pas d'accès à l'information, fin du monde ou fin du mois, bah, la priorité est plutôt sur la fin du mois, etc. Donc oui, mais en même temps, il y a des gens qui savent très bien et qui ne font pas ce qu'il faudrait, et ce sont ceux qui nous dirigent, et ça, on a le droit d'être en colère.
Voilà, oui, parce que la transformation dans nos vies quotidiennes individuelles, elle est indispensable, on doit tous faire des efforts, mais ça ne suffira pas. Il faut vraiment que... Enfin, c'est un peu décourageant aussi, quelquefois, de faire autant d'efforts au niveau individuel et de voir qu'à un niveau beaucoup plus vaste et qui a des répercussions, si on regarde schématiquement, qui un impact beaucoup plus important sur la planète, sur l'atmosphère, sur les océans, sur tout ça, les forêts et compagnie, et de voir qu'il y a une telle négligence, un tel déni, une telle obstination à continuer à faire comme si de rien n'était. Ouais. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de regarder le fait que vous montrez à quel point les interactions de pas faire tout seul dans son coin, mais que le fait que ces personnes se réunissent, se rencontrent, agissent avec d'autres, même si au début elles se connaissent pas forcément toutes dans celles qui sont dans la série, mais en tout cas elles sont pas isolées, elles sont en mouvement, quoi, avec d'autres personnes qui sont dans cette dynamique. Et ça, je pense que ça peut effectivement aider.
Parce que de toute façon, quand on est un peu éco-anxieux, un peu éco-inquiet, ou qu'on se lance dans une dépression bio, la première chose à faire, c'est d'en parler autour de soi et de se rapprocher, pardon, de personnes qui vivent un petit peu et traversent un petit peu la même chose. D'abord, ça fait du bien de déposer un peu sa peine, son impuissance, sa colère, sa peur aussi. Et donc, du coup, là, ce qui se passe, c'est que agir en plus, enfin, vous savez ce qu'on dit, hein, tout seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. Donc, comme les chantiers sont absolument infinis dans à peu près tous les domaines, notamment pour la quête de l'autonomie, qui est un vœu pieux, c'est sûr, mais voilà, qui est intéressant à voir dans le viseur, et ben, quand on le fait à plusieurs, c'est plus léger. Enfin, quand vous avez 300 kilos de pommes à transformer en compote, très franchement, si vous êtes 5-6, c'est plus rigolo que si vous êtes toute seule. Et c'est valable à peu près pour tout. Je ne connais pas un écolieu ou des gens qui sont en transformation qui ne s'entraident pas, qui ne se refilent pas une cuve de 1000 litres pour l'eau, d'autres une heure de bricolage pendant que vous faites un transport de quelque chose ailleurs. Là, je suis dans un site où l'entraide est totalement... je sais pas, j'ai l'impression que la monnaie d'échange, c'est l'entraide, en fait, finalement. Donc, et qu'on peut très bien vivre comme ça. Donc, voilà, agir seul, c'est bien, mais agir à plusieurs, c'est plus marrant.
Et vous, qu'est-ce qui vous a sensibilisé aux questions d'environnement ? Est-ce que ça a été une prise de conscience progressive ou est-ce qu'il y a eu un moment, une étape, un élément déclencheur ?
Moi, je suis tombée en écologie en arrivant à Libé au début des années 2000. On a créé la page Terre. Je crois que ma grosse claque, ça a été Tchernobyl. Quand j'y suis allée pour la première fois en 2003, j'y suis retournée souvent. Ça m'a déclenché une sorte de passion pour le nucléaire, son fonctionnement, plutôt ses dysfonctionnements, son économie, son efficacité, plutôt son inefficacité industrielle. Voilà, ça a déclenché, je sais pas, une forme de... Pour moi, il y avait rien de plus important que de parler des dérèglements en cours. Je pensais qu'en en parlant, en écrivant tous les jours dans Libération là-dessus, bah, ça mobiliserait les gens. Ça n'a pas été vraiment le cas. Et à force de déception et d'être venu de plein de croyances comme ça, ça ne m'empêche pas d'agir parce que je ne saurais pas quoi faire d'autre dans la vie aujourd'hui. Voilà, que d'alerter, que de faire, que de relier les gens, que d'en parler, que de raconter des histoires et d'aider. Par exemple, en ce moment, je prépare un livre, Bifurqué par temps incertain. Comment on fait pour changer de vie? Faut-il partir seul, en collectif? Quels sont les pièges, multiples pièges qu'on va trouver? Doit-on sortir des villes ou continuer à se battre à l'intérieur des villes pour qu'elles soient plus résilientes, etc. Donc c'est des questions infinies, quoi. Voilà.
Alors, l'humour est souvent présent aussi dans tout ce que vous produisez. Et là aussi, tout au long de ces épisodes, l'humour est présent de façon très fine, en fait. Et c'est un regard, hein, quelquefois un peu décalé, comme avec Bridget Kyoto. D'ailleurs, j'ai re-regardé là quelques épisodes en préparant cette interview. Quelle place a l'humour dans votre travail ?
Alors, l'humour, d'abord, dans ma vie, à titre d'être humaine, j'aime bien me marrer. J'adore l'humour noir, jaune, vert, qui, enfin, voilà, un truc un peu trash. Parce que je suis une personnalité qui aime beaucoup rire, qui trouve que tout est risible. Encore une fois, je redis qu'on est sur cette merveille de planète, miraculeuse, et qu'on a quand même la vaste blague, c'est qu'on arrive à tout détruire, quoi. Voilà, en quelques centaines d'années. Donc, je trouve ça assez drôle. Enfin, c'est de l'ironie, hein. J'aime bien l'humour caustique et ironique. Du coup, quelle place ça a? Ça me permet, moi, de mettre à distance le pire. Voilà, c'est la seule fonction pour moi du rire. Vous savez, c'est, c'est un super réalisateur qui avait fait... un réalisateur qui avait cette phrase comme quoi l'humour, c'est la politesse du désespoir. Pour moi, c'est la politesse du désespoir. C'est-à-dire, soyons au moins légers et drôles, parce que sinon, c'est à en chialer, quoi, de ce que l'humanité peut faire à ce miracle. Donc, en plus, pour des raisons assez questionnables, comme la cupidité ou des choses pas très nobles, en fait. Donc, moi, je dirais que l'humour permet de mettre à distance le pire et de prendre de la hauteur.
Bien. Pour terminer, qu'est-ce que vous avez envie qu'il en sorte de cette série? Qu'est-ce que vous aimeriez que les spectatrices et spectateurs en tirent?
Déjà, ce serait super si les gens pouvaient se dire, mais en fait, finalement, oui, on se reconnaît là-dedans, on vit là-dedans, on est un peu éco-anxieux, et je voudrais les rassurer en leur disant que s'ils sont un petit peu dans ces affres-là, et parfois tristes, parfois en colère, impuissants, ou plein de trouilles, en réalité, ils sont très, très, très bonne santé. C'est ça, l'éco-anxiété, c'est un signe de très bonne santé. Être carbonisé, c'est un signe de très bonne santé. Et puis, vous savez, on carbonise, on brûle un peu les terres pour qu'elles soient encore plus fertiles après. Donc, il me semble que quand on a bien cramé ces petits neurones, on est prêt pour fertiliser nos actions de plein d'enthousiasme, de joie et, allez, j'ose le dire, d'espérance, pour que ceux qui s'en sortiront dans quelques décennies puissent se dire, des gens avant nous ont fait et nous ont montré un peu une voie de résilience, de sobriété, d'autonomie, et merci à eux d'avoir tracé ce chemin.
C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Laure, pour nous avoir un petit peu permis de découvrir par le off cette belle série qui est donc mise en ligne sur la plateforme France.tv dans le cadre du Jour de la Terre et qui va rester en ligne, je pense. Il n'y a pas de date de fin, ça va rester en ligne.
Non, ça va rester en ligne très, très, très longtemps.
Voilà. Donc, tous ceux qui réécouteront ce podcast, y compris dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on espère pourront toujours y avoir accès. Donc, je vous souhaite une bonne continuation sur votre nouveau projet.
Merci beaucoup.
Et puis, je vous souhaite une bonne route.
Bonne journée, merci beaucoup, Anne. Et puis, bon visionnage à tous ceux qui nous écoutent.
Voilà, on encourage tout le monde à visionner et surtout à partager, faites connaître, partager sur les réseaux sociaux pour faire découvrir et sensibiliser le plus grand monde. Merci, au revoir.
Merci, Anne, au revoir.
Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.